Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Ici Radio Diwa, donc la radio de Diwa sur 107.5 FM et sinon sur le site www.rdwa.fr. Et aujourd'hui nous recevons Odile Schwertz-Favra. Vous êtes là en interview pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu à Valence prochainement, le vendredi 1er mars à 19h jusqu'à 22h à la Maison des Sociétés. Il y aura une soirée animée donc avec l'association Femmes en Lutte, citoyenne à part entière, et le GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, en présence de Madame Marie-Madeleine Quelch, déléguée départementale aux droits des femmes. Que voulez-vous partager avec ce mouvement?
Il s'agit de l'association Femmes en Lutte, la LUTH, citoyenne à part entière, créée il y aura bientôt 2 ans, rassemble entre 130 et 150 femmes, je ne sais pas exactement aujourd'hui, de 24 nationalités, des pays de l'Est, de France, du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne, dans des proportions à peu près égales d'ailleurs. Donc, ce qui nous a donné l'idée d'ouvrir une permanence, qui effectivement sera ouverte le 6 mars, d'accueil spécifique des femmes victimes de violences, soit mutilations sexuelles, qui sont encore fréquentes dans certains pays, en particulier d'Afrique subsaharienne, mais pas seulement, mais aussi d'autres violences subies, viols collectifs, etc., qui sont aussi fréquentes, aussi bien en Tchétchénie qu'au Congo. Et voilà, donc on va ouvrir cette permanence pour accueillir ces femmes qui ont vécu ces violences spécifiques.
C'est un mouvement axé justement pour la défense des femmes dans les pays d'Afrique du Nord et peut-être au Proche-Orient.
Il s'appelle exactement Femmes en Lutte, citoyenne à part entière, et aussi pour travailler et acquérir vraiment dans nos pays dits d'accueil une autonomie. Donc c'est les femmes qui se prennent en charge, qui sont actrices de leur propre mouvement, qui, de diverses manières, elles ont créé un spectacle de théâtre qui s'appelle Cris d'exilés, elles ont fait cinq fresques même, qui ont déjà pas mal circulé, non seulement en France, mais aussi à travers le monde. Donc c'est vraiment des femmes qui sont dans une dynamique de se prendre en charge, la langue n'étant pas un obstacle, puisque de toute façon on a tellement de diversité que les problèmes de traduction sont tout le temps réglés, quoi. Donc c'est ça un petit peu la dynamique de ce groupe, Femmes en Lutte, citoyenne à part entière.
Au niveau de votre localité, c'est-à-dire sur Valence, est-ce qu'il y a un mouvement important justement derrière vous à Valence?
On commence à être bien connu, quoi. C'est vrai que Madame Kölsch, déléguée départementale aux droits des femmes, soutient l'association et a toujours encouragé les femmes pour qu'effectivement elles avancent, parce qu'effectivement il y a un potentiel très important d'expression, de volonté aussi de se prendre en charge, qui est intéressant, quoi. C'est pas, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien, on fait pas à la place d'eux, on fait avec les femmes.
Est-ce que par votre démarche, vous voulez mettre le point sur des lacunes que l'on pourrait déplorer au niveau du gouvernement ou de l'État?
Oui, alors les femmes, justement, ça vous pose cette question, c'est bien, parce que, entre autres, elles auraient rédigé, dans le cadre des campagnes pour les présidentielles, elles ont rédigé un argumentaire sur l'asile, et il est bien certain que elles ont souligné toutes les limites de l'exercice de ce droit dans nos pays européens. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on travaille beaucoup, on va continuer à rencontrer sur le plan national aussi, puisqu'elles font aussi partie d'une commission nationale femmes de la FASTI, donc on a des rencontres dans les différents ministères, et on doit être... Il y en a eu une récemment avec le directeur de l'OFPRA, dont les fonctionnaires sont chargés plus particulièrement de statuer sur les demandes d'asile, les officiers de protection exactement. Donc il y a plein de démarches en cours, oui, bien sûr. Et en particulier, on travaille aussi sur la thématique de l'accueil, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Ça exige des formations, ça exige de pas faire n'importe quoi. Quand c'est un homme sans aucune formation qui reçoit une femme qui a vécu des violences sexuelles graves, vous imaginez ce que ça peut donner au niveau du partage de la communication.
D'ailleurs, est-ce que vous déplorez un petit peu la politique actuelle du gouvernement, toujours avec le ministère de l'Intérieur qui continue à remettre à la frontière beaucoup de personnes dites clandestines.
Comme disait une femme l'autre jour, on est allé au Parti Socialiste parce qu'elles font des démarches partout. Et une femme d'origine française, mais d'origine centrafricaine, elle a dit, attendez, moi ça fait, j'ai voté toutes les dernières élections pour vous. Maintenant, si ça continue, je vais changer. Enfin, elle le disait un petit peu en plaisantant, mais à moitié, parce qu'effectivement, on ne voit pas du tout les avancées. On a demandé un changement de loi. On nous donne une circulaire qui régularise personne et qui de toute façon n'est pas contestable devant les en contentieux vu que ce n'est qu'une circulaire et pas une loi. Nous on demandait dès le départ un changement de loi, une révision de la loi sur l'accueil des étrangers femmes ou hommes dans notre pays. C'est ça qu'on demande, un débat sur l'immigration et sortir un petit peu de ces lois qui nous enferment, qui sont des lois de police en fait, hein. Encore plus depuis que le ministère de l'Intérieur est rentré au conseil d'administration de l'OFPRA. On veut vraiment une réflexion large sur ces problématiques-là.
D'ailleurs, au niveau des collectivités locales de la Drôme, est-ce qu'il y a aussi des personnes ou des services qui vous soutiennent et qui vous aident ?
Oui, c'est sûr. Alors c'est pas tout le monde, mais il y a des élus, aussi bien à la mairie de Valence, par exemple, puisqu'on travaille avec eux, que département, qu'à la région, qui apprécie beaucoup le travail qu'on fait, le travail de sensibilisation, qui est d'ailleurs unique en France, hein, parce qu'il y a très peu de groupes de femmes avec autant de nationalités. Il y a beaucoup de... C'est aussi une lutte contre le communautarisme qu'on a engagé avec ça, hein. Il y a très très peu de groupes en France qui aient autant de nationalités et des revendications féministes claires.
Et justement, vous annoncez d'ailleurs prochainement l'ouverture d'une permanence d'accueil des femmes victimes de violences et de mutilations sexuelles.
Voilà, de violences, mutilations sexuelles et mariages forcés, pas seulement pour des raisons religieuses. D'ailleurs, souvent on réduit ça à des raisons religieuses, c'est des raisons coutumières, enfin variées. Mais bon, les femmes en fait subissent ça après toute leur vie, certains hommes aussi d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est aussi pour essayer d'avancer un petit peu, puisqu'on est aussi, en même temps qu'on débat, qu'on conteste les lois, qu'on essaie de produire des argumentaires, on essaye aussi de faire un travail de sensibilisation de l'opinion dans les quartiers. On espère que les femmes les africaines du quartier vont venir demain soir, et puis dans tous les lieux de sensibilisation, voilà, puisque ça va être la journée internationale des femmes. Dans tous les lieux, on essaye de faire passer nos revendications et faire connaître notre combat.
Votre mouvement m'a l'air justement plutôt axé vers des femmes originaires d'Afrique. Est-ce que vous avez aussi...
Non,
pas forcément.
Je vous ai dit qu'il y avait 23 nationalités et qu'on a autant à part égale des femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne, des femmes qui viennent des pays de l'Est, ou que ce soit celles qui sont originaires des pays de l'ex-Yougoslavie, que ce soit celles qui vivent encore en Tchétchénie ou dans d'autres pays. Les violences faites aux femmes, même si on parle très très peu de ces pays, sont terribles.
Et en France, des Françaises, vous vous en occupez aussi ?
Oui, alors on a aussi des Françaises aussi, oui. Alors c'est essentiellement sur des thématiques, sur des violences conjugales, voilà, des choses comme ça.
Par rapport à ce local, donc la permanence, ça a été un lieu qui a été mis à disposition par qui alors ?
Par la mairie, mis à disposition à la Maison des Sociétés, par la mairie de Valence.
Et l'adresse, s'il vous plaît, comme ça je pourrais...
C'est Maison des Sociétés, rue Saint-Jean, bureau 201.
Et il y a des horaires d'ouverture aussi ?
Alors, pour le moment, ce sera le mardi à 10h.
J'ai un peu lu votre biographie, un peu, j'ai vu quelques articles vous concernant. Ouais. Vous êtes engagé depuis un certain nombre d'années, depuis les années 70 au moins.
Oui, même avant.
Même avant, hein, mais...
J'étais étudiante à la fac, oui. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup aussi participé
aux luttes de
libération de pays. J'avais un oncle qui était au Maroc. On a beaucoup milité quand on était étudiant. sur l'Algérie aussi, puisque j'étais à Lyon, qu'à cette époque-là, on retrouvait, comme à Paris, des corps algériens, de militants du FLN, aussi bien dans le rôle que qu'il a pu en avoir dans la scène. Donc c'est vrai que c'est une lutte qui a des... Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a motivé?
Le soutien aux luttes des femmes. D'ailleurs, je vais aller au Forum social mondial et on va essayer d'avoir une manifestation des femmes en plein Tunis et pas enfermée dans l'enceinte du Forum.
Qu'est-ce qui vous a motivé dès la jeunesse à agir ainsi
pour... Oh là là, je vais pas raconter ma vie.
Non, mais non, ça peut éveiller, ça peut éveiller aussi...
Personnel et puis voilà, un sentiment de profonde injustice qui fait que bon, il faut bouger parce qu'il y a des gens qui bougent et il faut être solidaire. Voilà, c'est ça aussi. On va faire un vœu de solidarité, y compris vendredi soir avec les femmes tunisiennes qui seront très très heureuses si on manifeste. On en parlait avec des journalistes à Paris ce week-end, si on arrive à faire cette manif dans les rues de Tunis et non pas dans l'enceinte du Forum. Les femmes tunisiennes attendent ça parce que elles sont beaucoup battues, elles ont obtenu des choses et on est en train de les leur retirer. Avec des femmes kurdes qui seront là aussi vendredi et qui font des manifestations pour avoir des éclaircissements sur l'assassinat des trois militantes kurdes en plein Paris début janvier. Enfin voilà. C'est aussi cette solidarité-là qu'on essaye de vivre, parce que les femmes, elles se battent dans tous les pays.
Des craintes pour l'avenir ?
Des craintes pour l'avenir, oui, bien sûr. C'est à la fois des craintes, parce que bon, le monde est en train de se recomposer en fonction d'intérêts qui ne sont pas celui de l'intérêt des peuples et des personnes. Et en même temps, un espoir, parce que les gens, ils baissent pas les bras. Il y a toujours... c'est imprévisible. Alors, les révolutions, ben, on a bien vu ce qui s'est passé en Tunisie, c'est souvent imprévisible. Hein. À un moment où on est au plus noir du tunnel, on est dans un trou, et puis il y a quelque chose qui éclate et qui donne espoir dans les facultés de résistance et des hommes et des femmes.
Mis à part ça, ce matin, je vous ai contacté une première fois et vous étiez en préfecture, c'est ça, pour justement certainement travailler sur votre...
Alors ça, c'est le combat au quotidien qui est complètement usant parce qu'on passe des heures, il n'y a pas grand-chose qui aboutit, les gens sont... Il manque de personnel, il manque de plein de trucs, les instructions souvent contradictoires qui sont données fait que les salariés, les fonctionnaires eux-mêmes ont de la peine à s'y retrouver. C'est compliqué, quoi.
Et vous appelez aussi des personnes à vous rejoindre pour vous aider.
On est quand même un bon groupe, hein, et dans l'association des femmes et dans le collectif de solidarité avec les sans-papiers et les sans-droits qui s'est reconstitué au niveau de Drôme-Ardèche.
Peut-être besoin d'écrivains publics aussi.
Oui, oui.
Ça, c'est une grande lacune, oui, au niveau de l'administration. Je m'en rappelle, à Paris, parfois, j'ai aidé des personnes,
oui,
à remplir leurs dossiers.
Alors nous, les gens, ils viennent beaucoup chez nous, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de salariés, on a que nos propres forces et qu'elles sont forcément limitées pour, oui, faire tout ce travail-là, quoi. Et on encourage surtout l'expression des femmes. Chaque année, on publie des textes, ils ne sont pas sortis encore, mais ils sont en gestation, ils sont écrits dans les langues d'origine. Et on tient beaucoup à ce que les femmes écrivent, même dans leur langue d'origine, même si elles n'ont pas encore la pratique du français, parce que elles exercent leur faculté de parler, de dire les choses. Après, on traduit. C'est un exercice aussi d'apprentissage du français que de traduire des textes qui ont été écrits dans les langues d'origine. Et c'est aussi le respect des cultures d'origine, parce que bon, moi j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas, il fallait tenir compte de ces racines-là, et qu'un arbre dont on coupe les racines, il ne peut pas vivre très longtemps. Donc il faut prendre tout ça en compte. C'est des personnes qui sont passerelles entre ici et là-bas. Et ça, c'est une richesse pour notre société qui est interpellée à tous les niveaux par ces forces-là.
Femmes en lutte et citoyennes à part entière, c'est un mouvement, oui, qui est né en quelle année ?
Alors, lutte, je dis souvent, on me pose des questions, ça s'écrit L-U-T-H.
Oui, je sais bien.
Je sais pas si vous l'avez vu.
Si, je l'ai bien lu, j'aurais dû le préciser, je suis désolé. Mais,
L-U-T-H ?
Oui,
pourquoi
L-U-T-H.
On le demande souvent, parce que on a choisi le mot lutte parce qu'évidemment il fait double sens et que c'est un instrument de musique qui est commun à beaucoup de cultures. Et comme on a beaucoup de femmes qui viennent de pays en guerre, qui ont vécu des guerres et des mutilations atroces, elles veulent dire par là qu'elles se battent, mais avec des armes de leur culture, avec des armes de paix et non pas avec des armes de guerre.
Et donc,
le spectacle est très fort, par exemple, c'est un instrument de sensibilisation, c'est autre chose que des armes.
C'est un mouvement qui est né en quelle année, là, ce groupe
Alors, la commission femmes dépendait d'une association et date d'il y a une quinzaine d'années, mais pousser l'autonomie jusqu'à se déclarer en association, ça date d'il y a 2 ans.
Et ça a été une réaction vis-à-vis de la politique gouvernementale, je suppose.
Oui, oui, et puis aussi au paternalisme d'un certain nombre d'associations et puis de services. Hein, quand on demande à une femme qui est universitaire au Congo, qu'on lui demande si elle sait lire le français, quoi, c'est constamment ça qu'elles vivent, les femmes. Donc elles en ont fait. On traite ça par l'humour, par des sketchs, mais c'est vrai que ça, il y a aussi cette attitude de soit protectrice, soit négatrice, et c'est contre ça aussi qu'elles ont affirmé leur autonomie.
À Paris, en 2003, j'ai aidé une association qui avait des locaux.
Oui.
C'était une association pour contre l'illettrisme et l'alphabétisation. Cette association avait des locaux qui étaient mis à la disposition et qui étaient loués grâce à des subventions d'État qui ont été supprimées ou voire gelées sous le gouvernement Raffarin. Est-ce qu'il y a eu ce même mouvement aussi en France, à Valence, qui a en fait malheureusement fait fermer pas mal d'associations d'entraide justement de populations étrangères ou immigrées qui
Il y aurait besoin que les associations, malheureusement le tissu associatif est souvent divisé et c'est aussi une lourde faute de compréhension de notre intérêt commun, quoi. En général, quand nous, on a failli nous prendre nos locaux à une époque, bon, on les a gardés en nous battant, mais il y avait beaucoup d'associations qui auraient pu nous soutenir, qui ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient encore quelques miettes et qu'elles pensaient que se protéger, alors qu'elles n'ont pas du tout été protégées, ça a été leur tour après, quoi. Voilà.
Est-ce que vous avez un peu d'espoir pour l'avenir, quand même?
Oui, moi j'ai toujours, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, j'ai toujours un espoir dans l'homme, dans les hommes, dans les femmes qui sont capables du pire et qui sont aussi capables du meilleur. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans ces femmes qui vont prendre le relais, j'espère, bientôt, et qui auront un autre regard sur la société, sur la vie, sur leur propre autonomie. Cette question d'autonomie, elle est fondamentale. Elle est dans l'émancipation des peuples, dans l'émancipation des femmes, dans notre propre conquête de l'autonomie à chacun et chacune d'entre nous. C'est évident, quoi.
Je peux rappeler encore de nouveau donc ces manifestations qui vont avoir lieu le 1er mars, demain, donc vendredi, de 19h à 22h à la Maison des Sociétés. Et donc, dans cette soirée, il y aura quoi au juste?
Alors, cette soirée, il y aura une présentation par les femmes de l'association, de ses objectifs, de la permanence, une intervention de deux femmes du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, GAMS, une de Paris, Nana Camara, qu'on a déjà reçue à Valence, et qui animeront un débat sur ces questions-là, mariage forcé, mutilation, à partir de la projection d'un film, et puis un débat avec la salle, quoi, voilà, puis un buffet convivial préparé par les femmes.
Et ce film sera lequel?
Alors, je ne sais pas, elles vont apporter, parce qu'on ne voulait pas passer notre soirée à faire un film, elles vont apporter un ou deux courts-métrages, là, elles vont choisir, je ne sais pas exactement, on leur fait confiance. Et ensuite, on a prévu aussi d'organiser une soirée pour faire connaître, parce que là, j'ai ramené de Paris un film qui est assez intéressant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Efkurdim, ça veut dire « Je suis kurde », pour vulgariser l'histoire des Kurdes, quoi. Qui est vraiment dramatique. Moi, j'étais à Istanbul, c'était en mars 2012, et au moment de la fête, c'est une fête Nevroz, hein, c'est le nouvel an turc, et le rassemblement pacifique des femmes pour Nevroz sur une place a fait l'objet de tirs. Il y a eu 78 morts, il y a eu des blessés, on a la peine à imaginer. Et moi, naïvement, je me disais, le lendemain, je prenais l'avion pour Paris, je me disais, j'ai regardé la une des journaux, on va en parler, mais rien. Donc, il faut aussi qu'on prenne en compte ça, que l'information, elle est très verrouillée, et que s'il n'y a pas quelques médias qui nous aident un petit peu, ça devient très difficile. Donc, on fera une soirée, j'ai ramené les portraits des trois femmes, des trois jeunes femmes qui ont été assassinées en plein Paris, ce qui ravive tout le débat qui a été mené pendant les semaines anticoloniales là, sur des assassinats l'assassinat d'État. On a eu une journée à l'Assemblée nationale avec les familles de Ben Barka, enfin de tout un tas, Farah Tached, etc., tous ces crimes d'État qui n'ont jamais été vraiment élucidés. Et avec cette affaire, d'ailleurs, à l'Assemblée, l'ouverture du salon anticolonial a été faite à le colonel Fabien, au local du Parti communiste, et a été introduit sur la situation, sur ce crime, ce nouveau crime d'État, point d'interrogation, des trois militants, trois résistances kurdes en France, à Paris, en plein Paris. Voilà.
Et vous déplorez justement cette lacune dans la formation en France concernant ces cruautés. Donc, je voulais savoir, quels sont les médias avec lesquels vous informez ?
Bah nous, on a plutôt des contacts avec des radios, des radios parallèles. Bah, de temps en temps, il y a la presse. On a eu sur un squat, là, on a eu une bonne interview de FR3. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt par les voies médias. Le manque d'informations, c'est au niveau du grand public. Quoi.
Oui, je sais bien. Mais vous utilisez des services ou des sites internet qui sont
nourris
d'informations.
Oui, bien sûr, il y a tous les sites internet.
Pourriez-vous nous en indiquer quelques-uns pour que puissent.
Il y en a souvent sur. Mediapart, Facebook, il y a plein dessus, et puis il y a toutes les radios parallèles. Il y a un bon réseau de radios parallèles qui, même locales, qui diffusent parfois sur tout le territoire.
Vous avez une page sur Facebook ?
Pour le moment, non.
Non.
Mais l'association est jeune, donc on n'est pas encore au bout de nos prospections.
Voilà. Est-ce que vous pensez passer dans les environs de 10 prochainement
Oui, on est passé. On a joué le spectacle. Où est-ce qu'on a joué à Sous. Oui, on est souvent. On bouge beaucoup en fait. Hein. Avec très peu de moyens, on bouge.
Oui, il y a une question qui me revient justement. Quand vous parlez de femmes en lutte, LUTH, on pourrait penser à une connotation, justement à une réaction contre l'intolérance religieuse qui héberge de plus en plus et qui s'installe de plus en plus dans les pays subsahariens, voire du Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait les mêmes tendances au niveau en France également, avec l'intolérance due à la religion?
C'est sûr que les discours, mais là, ça sera un autre débat. C'est hyper compliqué, le débat actuellement, sur ces questions-là. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de désinformation sur toute la campagne, les campagnes antiterroristes qui sont parfois montées de toutes pièces et jusque parfois carrément même avec des financements qui vont jusque à la CIA. C'est très compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. Faisons attention, c'est pour ça que nous on ne veut pas trop aller sur ce terrain pour le moment. On a voulu que l'association soit multiculturelle, soit indépendante de toute obédience religieuse et tout ça, pour garder justement ce regard et cette disponibilité et pas tomber dans le communautarisme. Et quand c'est fabriqué de toutes pièces, on dit attention quoi. Je donne un exemple, la semaine, ils avaient choisi de faire une conférence sur le thème, avec quelqu'un qui a travaillé sur ce thème-là, laïcité et religion au pluriel. Moi, j'avais dit, méfiez-vous, c'est un terrain qui est piégé. Ben, dès la première question, ça a été l'islamisme, voilà. On a ciblé l'islamisme. C'est très dangereux de faire ça, c'est très très dangereux.
Donc ça serait plus lié à une misère ? À la misère, plutôt, alors.
Pas à la misère, à l'égalité des droits. Je crois que c'est notre plateforme, hein, c'est égalité des droits, et ici et là-bas, quoi. Qui sont fomentés actuellement, c'est aussi pour reconquérir le colonialisme. Mais n'est pas mort, on essaye de nouveau de maintenir des acquis dans ces acquis coloniaux dans les pays africains. C'est une foire d'empoigne des pays à l'est comme à l'ouest. Le drame. Et c'est ça qui provoque les guerres et des choses qui. Et des gens qui sont un petit peu au courant, ils savent très bien qu'on nous ment sur plein de choses.
On se doute bien de ça, hein, par rapport au décalage de l'information officielle médiatisée.
Sur le Mali, surtout, c'est honteux.
Oui, une guerre...
En plus, se faire passer comme héros libérateur.
Oui, une guerre sans image.
Pour gagner quelques points dans les sondages, voilà.
Et pour illustrer l'émission, je voudrais savoir si vous aviez en tête une chanson ou quelque chose qui pourrait faire un petit, une petite liaison.
On a fait une chanson, mais elle n'est pas enregistrée d'abord, donc c'est très compliqué. On le fera peut-être, parce qu'elle a été publiée dans plusieurs revues, la Marseillaise des sans-papiers.
Oui.
Et autrement, bah, on a plein de musique, hein, des pays, que ce soit dans notre spectacle, les filles, elles dansent sur la musique orientale et de la musique africaine.
Ce spectacle, c'est quoi au juste ?
Cri d'exilé. Alors ce spectacle, moi, il m'a été inspiré par un Africain d'ailleurs, un sociologue africain que j'avais vu dans un forum international, tout de suite à Madrid, et à la tribune, devant plusieurs milliers de personnes, il avait lancé « Le monde va mal, l'Afrique va mal, le monde sera sauvé par les femmes ». Il avait crié ça, c'était très fort venant de la part d'un homme en plus. Et donc c'est la fin de notre spectacle d'ailleurs, hein, parce que c'est un spectacle où il y a ce cri à la fin, nous sommes la richesse du monde, cessons d'avoir peur, nous sommes les passerelles vers un monde sans frontières, et c'est un cri qui apparaît dans le spectacle en 12 langues.
C'est un spectacle que vous pensez rejouer dans ces prochains temps ?
Oui, on lui demande d'aller à Annonay, on a pas mal de sollicitations, on était à Vienne il n'y a pas longtemps, donc on essaye dans la mesure du possible, avec nos faibles moyens, avec la prise en compte aussi que les femmes, elles sont dans une très grande précarité au niveau du travail, donc chaque fois c'est un peu une galère d'arriver à... Mais bon, après le résultat justifie l'effort, quoi, parce que bon, on avait joué un roman et les gens étaient très très contents. Et après, ils nous demandent de revenir, quoi. C'était l'effort, ce spectacle, quoi. C'est le passage, si vous voulez, d'un... le premier texte, c'est un texte qu'on avait fait pour la Marche mondiale des femmes de 2000. Donc c'est un texte collectif. Et après, il y a des parcours de femmes qui ont vécu des violences, qui sont lues en voix off. Et les femmes étant masquées, parce que là aussi on refuse ce qui nous paraît comme quelque chose de grave, quoi. D'aller dire à une femme, allez bien raconter ta vie, s'exposer, chose qu'on ne serait pas capable de faire nous-mêmes, ça on le refuse. Donc on prend toutes les distances possibles, quoi. Les textes sont anonymés, etc. Et puis après, bon, elles reçoivent tout leur rejet d'asile, et puis il y a des danses, il y a plein de choses, et elles se retrouvent presque couchées par terre à se dire, mais bon, on va pas pouvoir aller plus bas que ça. Et à la fin, elles jettent le masque, et c'est là qu'elles disent... cessant de nous cacher, nous sommes, voilà, c'est le cri de la femme. Voilà. Donc c'est en même temps une démarche d'autonomisation des femmes qui est l'essence même de l'association.
Je crois qu'il y a un texte de Victor Hugo qui se référait justement à cette femme au sein nu qui a affronté le pouvoir.
Oui.
Voilà, et donc est-ce que nous sommes revenus à l'époque de Victor Hugo et celle des misérables?
C'est vrai que c'était un... Oui, c'était un... Victor Hugo, il a eu des textes très très forts sur plein de choses, hein, sur la justice, sur plein de choses.
Juste une question encore, la FASTIE, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, que je co-préside, parce qu'on est en présidence collective, et où je reste, parce que bon, on a quand même des mots d'ordre qui sont un petit peu d'avant-garde, droit de vote, non pas aux élections locales, mais à toutes les élections, ouverture des frontières, fermeture des centres de rétention, libre circulation, libre installation des personnes, parce qu'on est convaincu que c'est ce qui empêche que tant que ces choses sont maintenues, ça ne peut produire au niveau des lois que des discriminations. Donc c'est un objectif qui peut paraître angéliste pour certains, mais c'est quand même, il reste juste, quoi. Moi, personnellement, je suis persuadée qu'un droit ne se conquiert pas par palier, contrairement à ce qu'on... Parce que alors, sinon, on regarde, je prends l'exemple du droit de vote, on est contre 81 promesses de François Mitterrand. On est 30 ans après, et on fait quoi ? On allait mégoter pour un droit au rabais d'élection et d'éligibilité aux élections locales. Donc moi, je pense que les droits, ils se conquièrent pas au rabais, ils se conquièrent entièrement, ils se conquièrent pas donc par palier, ils se conquièrent soit par les luttes, c'est ce qu'a montré toujours l'histoire, ou bien par des gestes de courage politique, comme lorsque Badinter a osé abolir la peine de mort dans un climat qui n'était pas abolitionniste, en tout cas pas majoritaire. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait quelques groupes qui rappellent cela constamment, quoi. Et d'ailleurs, la vanité de nos efforts collectifs, ça le montre, quoi. Être des collectifs avec 70 associations à réclamer le droit de vote depuis 30 ans et d'avoir si peu abouti, c'est la preuve même que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc il faut. On a tort. Moi, j'étais prof de lettres et j'ai beaucoup discuté avec les élèves. On a tort de. Les gens, si on leur explique, je crois qu'ils comprennent. Mais il faut leur expliquer les choses comme il faut, quoi. Si on leur dit, ah ben, il faut pas faire plus que ça parce que ça passera pas, eh ben, il n'y a jamais rien qui va passer. Voilà.
Je vous rappelle juste, donc, demain, le 1er mars, de 19h à 22h, donc, la Maison des Sociétés, c'est une soirée animée avec l'Association des Femmes en Lutte, Citoyennat de Part Entière et le GAMS. Est-ce qu'il y a des sites internet pour pouvoir s'informer sur ce
Alors,
que
oui,
vous faites?
Alors oui, vous pouvez toujours, pour le moment, c'est le mien, donc c'est odile.asti@sfr.fr.
Ça, c'est une boîte mail, oui, mais il n'y a pas de site internet, proprement dit.
Non,
encore.
On n'a pas de site pour le moment, on a le mail.
Un numéro de téléphone aussi.
Oui, j'ai dit, on est encore assez équipé au niveau de la com, quoi.
Oui, d'accord. C'est un peu difficile.
Mais
c'est
on est
difficile.
Une jeune association encore.
Je vous remercie aussi, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Très bien, au revoir.
Au revoir.
Interview. 1, Terre.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.